Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, nous allons parler de médecine et d'intelligence artificielle, deux domaines dans lesquels je ne suis pas du tout spécialiste.
Mon ignorance ne le dispute que mon incompétence, donc.
Voilà, c'est ça, mais je trouvais que c'était un sujet quand même assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, aussi depuis quelques années. L'intelligence artificielle montre quand même qu'elle est capable de repousser plusieurs limites, si ce n'est chaque jour, parfois chaque semaine ou du moins chaque mois. Et ça permet d'avoir des nouvelles pistes de réflexion sur ce qui peut se passer en médecine ou ce qui s'est déjà passé. Et tout d'abord, je voudrais faire une espèce de petit retour en arrière sur comment dire, la plupart des progrès qu'on a pu faire dans le passé. Donc déjà, il est tout à fait clair aujourd'hui que une personne, on va dire lambda, vit mieux d'un point de vue de sa santé que n'importe quel roi et empereur des siècles précédents. Je veux dire, ça aujourd'hui c'est une évidence, même avec des moyens virtuellement illimités. Il y a 300 ans, vous ne pouviez pas vivre avec un tel confort de santé que la plupart des gens aujourd'hui. Il y a tout un tas de maladies qui ont été éradiquées, notamment la variole, c'est la seule maladie humaine qui a été vraiment totalement éradiquée grâce à une campagne mondiale de vaccination. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on a pu croire, en tout cas ce que je croyais, j'étais persuadé que c'était Pasteur qui avait inventé le premier vaccin.
Non, 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 c'était des gars avec des vaches en Angleterre.
Oui, alors tout à fait, bah, c'était justement par rapport à la variole, c'était Edward Jenner qui avait inventé le premier vaccin en 1796. Il avait observé d'ailleurs que les vaches qui avaient contracté la vaccine étaient protégées contre la variole. Et alors il inocule, je trouve ça complètement fou, il inocule en 1796 donc du pus prélevé sur une lésion de vache laitière à un garçon de 8 ans. 6 semaines plus tard, alors qu'il est exposé à la maladie, l'enfant ne la développera pas. Plus tard, c'est Pasteur qui découvre le principe du vaccin en étudiant le choléra chez les poules. Il découvre donc le principe d'atténuation, le fait qu'une culture bactérienne vieillie au contact de l'oxygène perd sa virulence tout en conservant son pouvoir immunisant. Plus tard, il démontre ce principe avec des animaux, puis avec encore une fois un enfant de 9 ans qui avait été mordu par un chien enragé en 1885. Le vaccin est préparé à partir de moelle épinière de lapin infecté, séché et donc atténué progressivement sur 14 jours. L'enfant survit sans développer la rage. Pasteur devient donc un héros de la médecine. Ce vaccin est le premier à être administré d'ailleurs après l'exposition. Suivront bien d'autres, vaccins contre la fièvre typhoïde, vaccins contre la peste, contre la diphtérie, le BCG, la tuberculose, la fièvre jaune,
Le Covid.
le Covid, qui a pas été
Qui
extrêmement
n'était pas un vaccin
efficace.
d'ailleurs, qui n'était pas un vaccin, qui était autre chose.
Vaccin contre la poliomyélite,
Que ça,
vaccin
c'était un grand truc, je me souviens.
contre
C'était
la.
enfant, parce qu'il y avait quand même beaucoup de
Ouais.
gens qui avaient la poliomyélite, et
Ouais.
voilà.
Vaccin oral contre la polio derrière, vaccin contre la rougeole, contre les oreillons, contre la rubéole. Enfin bref, aujourd'hui on a quasiment comment dire, éradiqué tout un tas de maladies qui étaient juste la norme, si on reprend encore
Il y
une
a un
fois
truc qu'on
la
n'a pas
variole.
trouvé, c'est le vaccin contre la bêtise congénitale, ça c'est.
Non, ça pas encore, mais peut-être qu'on va y parvenir, parce qu'on parvient de plus en plus à modifier les gènes, donc je ne sais pas, peut-être
Sais pas,
qu'on va
je
vivre
sais pas,
dans.
je crains le pire, parce que ça va toujours que j'allais dire, l'intelligence artificielle, ça réglera jamais les problèmes de la connerie naturelle, quoi. Et quand on voit dans un politique en France, on se dit, oh là là, on a du travail, hein, parce que
Oui.
je vois pas comment on pourrait les vacciner d'ailleurs.
Oui, eux, je crois qu'on perdrait pas grand-chose peut-être à les remplacer par des formes, y compris assez rudimentaires, d'intelligence artificielle, même pas
Un tout
forcément.
petit peu d'intelligence, ça nous va tellement de bien.
Ouais, déjà, si on pouvait juste éliminer la connerie évidente,
Eh
déjà, ce
bien,
serait pas mal, hein. On va dire 20% de ce qui se fait de plus con, déjà, on avancerait un petit peu mieux.
on aurait fait des progrès stupéfiants.
Et bon, alors tout ça se mesure évidemment avec des outils comme, enfin, tout simplement des mesures comme l'espérance de vie ou l'espérance de vie en bonne santé. On sait qu'au cours du siècle dernier, l'espérance de vie a été multipliée par deux. Même sur ces 2 dernières décennies, il y a une assez grosse progression, notamment
Mais ça va
dans les.
s'améliorer, ça, parce que maintenant
Oui.
on va les euthanasier.
Alors.
Vous savez,
Alors, du coup, ça va faire chuter l'espérance de vie,
oui,
statistiquement.
non, mais vous comprenez pas, c'est que C'est bien joli de faire vivre tous ces vieux qui servent à rien. Là. Vous en avez un devant vous, là, 82 balais, mais ça ne sert plus à rien. Donc il faut quand même... On m'a dit, moi, de façon tout à fait claire, quelques-uns de mes amis qui sont dans la profession médicale m'ont dit, Charles, si tu vas, ne vas jamais dans une urgence, dans un grand hôpital, parce que 80 ans, tu seras le dernier traité. Hein.
Oui.
Donc il faudra d'abord les petits, les, tout le monde...
Après, plutôt... c'est normal.
Oui, pourquoi c'est normal ?
Bah, c'est normal, moi aussi je traiterais en priorité un enfant plutôt que
quelqu'un. Je veux bien laisser les enfants, mais les gens comme vous, bah, pourquoi je les laisserais ça, Non, mais c'est-à-dire, y a un truc curieux, c'est que on fait tout, soi-disant, pour préserver la vie.
Oui.
Mais en même temps, on est une culture de la mort. On tue les bébés, on tue les vieux, on tue...
Oui, je suis d'accord.
Et donc, après, il y a quand même quelque chose de paradoxal. C'est pourquoi on se donne un mal de chien pour le type qui est vaguement en vie, à le maintenir en vie comme ça, avec un acharnement thérapeutique. Et puis, j'ai vu qu'en Angleterre, ils venaient d'autoriser l'avortement jusqu'au dernier jour. Alors, on tue un bébé, quoi. C'est là, il est parfaitement
en
état.
On l'a fait en France aussi, il y a quelques années, mais avec une exigence de motif, qui est d'ailleurs, à mon avis, volontairement un peu floue. C'est le cas de détresse psychosociale de la mère.
Bon, si la mère, elle n'a pas envie d'avoir le gamin, elle a le droit de le tuer, quoi.
Oui, bah, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce que c'est une détresse psychosociale.
On fait des grands
problèmes,
parce que sous la loi romaine, si vous voulez, quand même, s'il y avait quelqu'un, le père de famille, hein, le père de famille qui était quand même le type important dans la famille,
oui.
S'il avait envie de se débarrasser d'un de ses enfants, il avait tout à fait le droit de le tuer, c'était parfaitement admis. Donc je vois que maintenant c'est passé du père à la mère, quoi.
Ouais. Oui.
C'est un progrès ?
Je sais pas si c'est un progrès. En tout cas, à mon avis, on peut pas se revendiquer d'être de célébrer la vie si on fait ça. Et d'ailleurs, ça a été comme il y a une grosse contradiction lorsqu'il y a eu récemment la panthéonisation de Robert Badinter, puisque Emmanuel Macron, dans son discours, donc élogieux à son égard, disait que il célébrait la vie, le triomphe de la vie sur la mort, puisqu'il avait évidemment été à l'origine de l'abolition de la peine de mort. Donc, triomphe de la vie sur la mort, je veux bien, mais enfin, derrière, il n'y a pas beaucoup de cohérence sur le reste de ce qu'a fait Emmanuel Macron.
Non, et puis en plus, si j'ose dire, j'avais lu des statistiques il y a quelques années du nombre de types qui auraient été condamnés à mort, qui n'avaient pas été condamnés à mort, qui étaient sortis 15 ans après, qui avaient recommencé à tuer. Donc,
oui.
Quelque part aussi, il y a le problème des types...
Oui, on a juste transposé la mort sur d'autres personnes.
On tue les innocents, quoi.
Ouais, exactement.
Une fois de plus.
Ouais.
Ça vous apprendra à être innocent.
C'est ça. Mais alors, sur la question de l'euthanasie, je suis pas d'accord pour dire que ça cible en priorité les vieux. J'ai l'impression que ça cible beaucoup de gens. Il y a d'ailleurs, que ce soit en Suisse, au Canada, il y a beaucoup de jeunes personnes, des gens qui ont mon âge, voire même des adolescents, qui veulent se faire euthanasier tout simplement parce qu'ils sont dépressifs.
Oui, ça, c'est tout à fait... si vous voulez, moi-même ayant été un dépressif très profond, à l'époque j'aurais volontiers accepté qu'on m'euthanasie. Et je ne crois pas une seconde que ça aurait été une bonne chose, parce que finalement après ça je m'en suis remis et puis j'ai passé à autre chose. Donc si vous voulez, cette histoire de le fait que vous ayez envie de vous suicider aujourd'hui et que ce soit une volonté forte et exprimée librement, ne veut pas dire que vous avez raison.
Oui.
C'est-à-dire que ça peut être aussi une faiblesse temporaire, et donc accéder à ça, c'est un assassinat, quoi. C'est un...
Oui.
Donc, je veux dire, tout ça, il y a des endroits, il y a un philosophe, je ne sais plus lequel d'ailleurs, je crois que c'était Camus, mais je ne suis pas sûr, qui disait qu'il y a des endroits où la loi ne doit pas aller. On peut pas légiférer sur l'euthanasie, on peut pas.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que. On peut pas.
Oui.
Parce que c'est impossible de faire un.
Non, on voit très bien à quel point, en plus de ça, je veux bien discuter sur les raisons initiales de pourquoi on parle de l'euthanasie, mais il est tout à fait évident, d'ailleurs ça se voit très rapidement, que c'est une pente extraordinairement glissante.
Ah ben bien sûr, au Canada, là, il y a une pauvre vieille dame.
Ah oui, non, mais...
qui voulait s'euthanasier, puis quand les chances sont arrivées, elle a dit non, je veux plus, ben on l'a euthanasié quand même. Comme
ouais. Ouais.
Vous appelez ça comment ?
Honnêtement, j'appelle ça un meurtre. Hein.
Ben oui, ouais. Ouais, non mais c'est... Donc elle s'est... Parce que aussi, vous allez dire à votre grand-mère, là, tu sais, vraiment, t'occupes trois pièces dans ton appartement, ce serait bien si on pouvait les avoir pour les enfants, et tu ne sers plus à rien. Donc je veux dire, les pressions pour se débarrasser des vieux, Ça va être surtout s'ils ont du pognon.
Ouais.
Ah, mais même s'ils en ont pas, donc.
Et surtout dans un système dans lequel devenir riche passe essentiellement par l'héritage. Ce qui est paradoxalement, on parle toujours de taxer l'héritage en France, mais le grand paradoxe, c'est que vous avez tellement de taxes toute votre vie, vous cotisez pour la sécurité sociale et pas par une caisse normale, pas par capitalisation, donc. Pour énormément de gens, la seule façon de finalement ne plus être endetté, être propriétaire, etc., c'est d'hériter. Et donc, ça crée un conflit de génération. On hérite en plus de ça de plus en plus vieux. Donc, au moment où on en a peut-être le moins besoin,
Quand vous bossez plus, moi, il m'arrive un truc qui est effrayant, si vous voulez. C'est que j'ai un certain nombre d'enfants de mes amis qui prennent leur retraite.
Ouais. Ah oui. Oui,
vous voyez,
je comprends le.
Ouais. Ouais, je veux bien. Ma génération qui a le problème de sa retraite, bon, moi, ça va, mais les enfants de mes copains qui prennent la retraite, il ne faut pas déconner, quoi.
Ouais.
Donc, vous voyez, c'est. On vit vieux, hein.
Oui.
Donc, tout ça, si vous voulez. Alors, les progrès de la médecine, c'est très bien, mais il y a une espèce de paradoxe extraordinaire, si vous voulez, c'est que. On fait des progrès de la médecine sur finalement des gens qui ont refusé eux-mêmes de faire des enfants. Parce qu'on a un écroulement de notre.
Oui, oui.
Ça me paraît un peu.
Qui en ont fait moins d'enfants
moi,
que.
Enfin, par aujourd'hui, 1,2 enfants par femme, ça veut dire que la population va diminuer de moitié en 40 ans, quoi.
Oui.
Donc, je regarde ça, je me dis, il y a quand même des contradictions extraordinaires dans la médecine. C'est. Donc, on veut que. On veut qu'on devienne immortel, je sais pas, et qu'on continue à. On dépense un argent noir pour garder des vieux en vie, mais on refuse de dépenser un rond pour faire des crèches, quoi. Il y a quelque chose qui va pas, quoi.
Oui.
Il y a quelque chose qui va pas. Moi, ça me. Quand vous allez dans des villes comme Zurich, contre lequel je n'ai rien du tout, mais je suis allé encore récemment, je me suis promené. Il n'y a que des vieux. Vous ne voyez plus un enfant dans la rue, quoi.
Ouais.
Vous savez, quand j'étais gamin, on voyait des enfants qui couraient dans la rue. Les garçons qui faisaient des conneries, c'est normal. Là, donc, on a ce paradoxe extraordinaire. On va dépenser des sommes énormes pour maintenir en vie des gars qui sont déjà à la retraite, quoi.
Ouais.
Et on ne peut pas les payer à la retraite.
Non. En plus de ça, nous, on n'a même pas la retraite par capitalisation. Non, donc, non. À la limite, il y a des vieux qui vivent bien. Mais enfin, c'est parce qu'ils ont accumulé pendant toute leur vie.
Ils sont abonnés à l'université de l'EHPAD.
Voilà, exactement. Là, le problème, c'est que typiquement en France, c'est qu'ils vivent bien parce que aussi, nous, les actifs, on est ponctionnés à hauteur de 27-30% de cotisations sociales. Quoi.
Parce que vous ne voulez pas payer pour les vieux, bande d'ingrats. Ils ont tous les défauts, c'est vrai.
Ah oui, absolument. Mais après, lorsque je serai vieux, je n'ai pas du tout envie que les jeunes payent pour moi.
Ça, c'est ce que vous dites aujourd'hui.
Oui.
Moi, je connaissais Attali qui disait quand il avait 25 ans, il faut euthanasier tout le monde à 72 ans parce que vous ne servez plus à rien. Maintenant, il en a 82 et il ne s'est pas euthanasié. Hein.
Non.
Il aurait pu, ça aurait rendu service à la population.
Mais cela dit, il sert justement d'exemple pour montrer à quel point il avait raison, peut-être.
Non, c'est le seul homme qui n'a jamais eu trop sur la Terre, celui-là.
Oui. Mais donc aujourd'hui, bon, on vit plus longtemps en bonne santé aussi. L'espérance de vie en bonne santé, elle est passée de 58 ans en 2000 à 63,5 ans en 2019. Le niveau cognitif d'une personne de 70 ans aujourd'hui est bien supérieur à celui d'une personne du même âge il y a 20 ans. Il y a une étude berlinoise qui montre que les Berlinois de 78 ans testés dans les années 2010 ont obtenu des scores de vitesse de traitement perceptivo-moteur supérieurs de 12 points par rapport à la cohorte des années 90, ce qui est équivalent à un avantage cognitif de 25 ans, donc c'est absolument énorme.
Mais il faut les refouler au boulot.
Ah oui, bah oui.
Il n'y a pas de raison de prendre la retraite s'ils ont la pêche.
Ah oui, complètement, je suis d'accord. Je suis d'accord, ils peuvent faire plein de trucs pour la communauté.
Mais voilà.
Les septuagénaires, d'après une étude norvégienne, cette fois-ci testée en 2016, obtiennent des scores de mémoire et de cognition équivalents à ceux des sexagénaires de 2001, soit 15 ans plus jeunes. Une étude finlandaise de 2020 note que les 75-80 ans d'aujourd'hui obtiennent de meilleurs résultats sur presque tous les tests physiques, donc donc force de préhension, vitesse de marche et cognitif qu'il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, on a fait tout un tas de progrès, pas seulement sur la guérison de tout un tas de maladies, mais aussi tout simplement sur la vie de tous les jours.
Je me souviens, moi, quand j'avais votre âge, là, j'avais des amis, je connaissais des gens qui avaient 45, 50 ans, je les considérais comme vieux. C'était des vieux croutons, quoi. Mais aujourd'hui, vous voyez des gens de 45, 50 ans qui ont l'air d'avoir la pêche, qui font du sport. Ouais. Je sais pas, il y a aussi quelque chose qui... C'est vrai que à 45, 50 ans, ils fumaient, ils buvaient pas mal, et donc c'était un peu des ruines à 50 balais. Hein.
Il y avait moins de généralisation de l'activité physique aussi.
Beaucoup moins.
L'activité physique, lorsqu'elle était pratiquée, elle était souvent subie. C'est-à-dire que ça pouvait être les métiers manuels, tout ce qui est métier dans les champs, etc. Forcément, ça, c'est plus quelque chose qui nous pète le dos qui entretient le corps. Donc on a des gens qui étaient complètement cassés à 55 ans. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus rare, quoi. Même ce que je note, c'est aussi, évidemment, dans les percentiles les plus élevés, c'est les performances de longévité de carrière chez les sportifs de très haut niveau.
Oui.
Alors notamment, c'est même pas juste les professionnels de leur sport, c'est vraiment ceux qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire de leur sport. Donc par exemple Cristiano Ronaldo, aujourd'hui à 41 ans, alors il est plus au Real Madrid évidemment, il est en Arabie Saoudite, mais enfin il est quand même le meilleur buteur de son championnat. La génération de tennis qu'on a eu récemment, les Federer, Nadal, Djokovic qui est encore en activité à très très haut niveau, a complètement oblitéré les statistiques de longévité des...
37 ans, ouais.
Ouais, de 37 ans pour Federer, 38 pour Nadal, Djokovic il a 38 ou 39 actuellement.
C'est vrai, mais à très haut niveau c'est pas tout à fait exact, parce que moi j'ai bien connu le tennis, hein.
Ouais.
Et donc quand j'étais jeune, il y a Rose Wall qui est arrivé en finale de Wimbledon, il avait 18 ans je crois, contre Laver ou je sais pas quoi, bon il a perdu. Puis il y a eu l'épisode où il y a eu le professionnalisme qui n'est que pour une toute petite élite, puis ensuite il est devenu général. Donc pendant 15 ans, il n'a pas pu rejouer au tennis de professionnel. Enfin, il y avait une tournée où ils jouaient ensemble, mais enfin, c'était pas ça. Donc je crois qu'il est arrivé en finale à 33 ans.
Ouais.
Et cette fois-ci, il jouait contre Connor.
Ouais.
Connor, si vous voulez, 20 ans après, il était à nouveau en finale parce qu'il avait 18 ans. Contre, je ne sais plus lequel, ça devait être Federer ou quelque chose comme ça. Donc, vous prenez Rose Wall, Connors et Federer, et vous trouvez, sur 18 ans, ils étaient là, vous faites un demi-siècle de tennis avec trois gars, quoi, au plus haut niveau. Donc, moi qui joue au tennis, je peux vous dire d'un truc, c'est que quand vous jouiez par hasard contre un de ces gars, ils faisaient des trucs auxquels vous ne comprenez rien, quoi. Ils n'étaient pas simplement plus rapides, plus forts, etc. Ça allait beaucoup plus vite, quoi. Sans que vous compreniez pourquoi, quoi.
Oui.
Ils faisaient des trucs. Moi, j'ai joué une fois contre Marcel Bernard, qui était un gars qui avait gagné les... Il était vieux, hein. Qui avait gagné les Internations de Roland-Garros à Paris en 46 ou un truc comme ça, 47. De temps en temps, il faisait un point, mais je me retrouvais à 3 mètres de la balle, quoi.
Oui.
Je n'avais rien compris, quoi. Je ne comprenais pas. Il était gaucher, en plus, cet animal. Donc, je veux dire... C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui font du sport et qui se maintiennent bien, mais au niveau le plus élevé, si vous y êtes arrivé, vous y restez souvent longtemps. Hein.
Oui. Mais je veux dire, je pense que le niveau d'exigence aujourd'hui pour rester en forme au très très haut niveau. Mais
ils ont tous des spécialistes diététiques.
Ah oui, bien sûr. Djokovic, il est extrêmement suivi. Ronaldo aussi, il a une hygiène de vie absolument énorme. Et là-dessus, c'est vrai que il y a 40 ans, on avait des joueurs de tennis qui fumaient, qui buvaient. Enfin, aujourd'hui, ils sont tous au
jardin. Moi, le 15 de France de rugby, un type comme Blanco, qui joue arrière, avant de rentrer sur le terrain, il se tapait une clope, quoi. C'était. Pour se calmer, quoi.
Ouais.
C'était pas tout à fait pareil, quoi.
Ah, c'est sûr. Et ou même, on peut prendre d'autres exemples. Au basket, on a LeBron James qui reste quand même un assez gros leader statistique à 41 ans. Au football américain, exception absolue Tom Brady, qui a joué jusqu'à 45 ans après 23 saisons. Enfin, 45 ans là, normalement.
Puis il jouait quarterback, c'est un peu le Domine Bell local, quoi.
Ouais. Normalement, à 45 ans, on est entraîneur depuis déjà 2-3 ans. Mmh.
Ou dans une chaise roulante, oui.
Et encore, il est encore en forme. Hein. Aujourd'hui, il est chroniqueur pour, commentateur de football américain, mais il est encore en forme. Enfin, bref. Et bon, alors, malgré ça. D'après les estimations de l'espérance de vie dans les prochaines années, dans les prochaines décennies,
ça monte plus tellement. Hein,
plus tellement, effectivement. Ça monte toujours, mais à chaque fois avec un petit peu moins de.
Il y a des pays où ça baisse.
Il y a des pays où ça baisse. Bah forcément, surtout les pays les plus, on va dire la moitié le milieu des pays développés, parce qu'il y a les pays qui sont sous-développés qui ont eu une augmentation de l'espérance de vie absolument faramineuse dans les 20 dernières années. Un pays, par exemple, comme le Rwanda, a eu une augmentation de son espérance de vie de près d'un an par an. Donc, ça, c'est juste faramineux. Mais sinon, on est plutôt sur la prospective du futur. On est plutôt sur un an de gagné par décennie.
Avant
ce qui est vraiment plus beaucoup. Et encore, après, on passe plutôt à 0,95, 0,85, etc., 0,8. Mais ça n'empêche pas certaines personnes de chercher la vie éternelle. Et là, je voudrais parler d'une personnalité...
Il y en a un fou en Californie, là.
Oui, absolument. On va parler de lui. Il s'appelle Brian Johnson, qui est... Brian Johnson, c'est un entrepreneur américain de 48 ans, qui est le fondateur de Braintree, qui l'a vendu à PayPal pour 800 millions de dollars, et de Kernel, qui est une entreprise neurotechnologique. Il est devenu l'un des visages les plus visibles du biohacking extrême depuis 2021-2022. Il dépense environ 2 millions de dollars par an sur son projet personnel Blueprint, qu'il décrit comme une expérience scientifique totale sur lui-même pour ralentir, arrêter ou inverser même le vieillissement biologique. Son objectif déclaré « don't die », ne pas mourir, et faire en sorte que sa génération soit la première à ne pas mourir, avec un horizon concret d'immortalité d'ici 15 ans.
J'ai vu qu'il y avait des médecins américains, je crois, qui avaient trouvé des façons de renverser le vieillissement des cellules. C'est-à-dire qu'on commence à trouver des médicaments qui arrêtent le vieillissement des cellules.
Oui, tout à fait. Chez les animaux, par exemple.
Chez des souris. Pauvres souris. mais donc, ça veut dire qu'on fait des progrès aussi. Parce que le processus de vieillissement, c'est pas bien clair. On ne sait pas très bien. Il y a des animaux qui ne vieillissent pas, quoi.
Ouais, les requins, par exemple. Il y a des requins qui peuvent vivre plus de 300 ans. Il y a des méduses aussi. Il y a des animaux qui arrivent à régénérer leurs cellules. Alors forcément, ils ont une structure d'ADN extrêmement particulière. Mais le but de la médecine, c'est d'essayer en quelque sorte de transférer, on va dire, le logiciel de vieillissement de cellules de certains animaux sur le nôtre. Ce qui n'est pas forcément une mince affaire, mais qui n'est pas non plus infaisable d'un point de vue théorique. Et donc son protocole blueprint à Brian Johnson, c'est le suivant. Il a une alimentation avec un régime strictement vegan, entre 1970 à 2250 calories par jour, avec une restriction calorique de 10%, 130 grammes de protéines, ce qui est pas rien, 3 repas terminés avant midi, sommeil de 8h30 minimum par jour, avec un score de sommeil parfait mesuré par des capteurs. Il fait 1 heure par jour d'exercice avec un mélange de cardio et de musculation intensive. Il a tout un tas de suppléments alimentaires, donc des...
Qu'est-ce qu'il doit s'emmerder?
Oui.
Qu'est-ce qu'il doit s'emmerder? Par les gens autour de lui, ça doit être quelque chose.
Ouais, et alors il est mesuré par des centaines de biomarqueurs sur les organes, sur la peau, sur le sang, sur les inflammations, etc.
Et il saute madame quand?
Alors figurez-vous qu'il a une madame depuis quelque temps, mais ça n'a pas été le cas pendant un petit moment, puisqu'il a été il est divorcé. Alors au début ça allait à peu près, parce que il commençait ses traitements expérimentaux avec son fils qui s'appelle Talmage, qui a 19 ans, et après son père aussi de 71 ans l'a rejoint. Donc il faisait ça en famille, il y avait un côté un peu partage, c'était sympa. Maintenant il explique que son fils a dû partir à l'université, et que ça a été un moment assez difficile pour lui, parce qu'il s'est retrouvé tout seul avec juste les gens qui le suivaient. Donc il a quand même une équipe médicale de 30 personnes et une IA personnelle, ce qui est, voilà, c'est pas rien. Effectivement, moi j'ai vu un documentaire sur lui qui est très bien sur Netflix. Où on voit effectivement, bah, il se lève le matin, c'est très protocolaire, il doit faire les choses dans un certain ordre, ne pas varier à chaque fois, il prend tout
Il
un tas
ne va pas vivre jusqu'à la fin des temps, ce gars-là, il va mourir comme tout le monde. Parce
Mais
qu'on
il va mourir d'autre chose, quoi.
Non, non, mais ça va lui paraître très long, surtout. Ça. Parce que faire tous ces trucs-là, s'emmerder comme ça, tout ça pour essayer de gagner un
c'est
an
ça.
et demi. C'est le médecin,
c'est un peu ce qu'on se dit, c'est d'accord, ok.
Il va pas vivre toujours, mais ça va lui paraître long.
Peut-être il va vivre jusqu'à 105 ans, 110 ans, j'en sais rien, mais à quel prix? C'est-à-dire, est-ce qu'il va vraiment avoir le sentiment de vivre ou il va juste avoir le sentiment de survivre le plus longtemps possible? C'est
Et
un peu
puis,
le sentiment qu'on a.
La vie, il y a la durée, et puis il y a l'intensité,
Bien
si vous
sûr.
voulez. Alexandre le Grand, il est mort à 33 ans, mais il en est arrivé des trucs. Hein. Il
stotte
comme professeur, il a conquis l'Asie, donc en 33 ans, il a fait plein de trucs. Le Christ, il est mort à 33 ans aussi. Jules César, il pleurait à 33 ans parce qu'il était toujours rien. Donc, vivre, c'est avoir des passions. Le reste, c'est durer.
Ouais.
Si le but c'est de durer, c'est pas un but.
Non, effectivement, c'est pas suffisant.
C'est un égoïsme inouï.
Oui, mais j'aime bien l'idée de durer, mais si c'est juste durer pour durer, bon, c'est pas.
Durer en vous emmerdant pendant 100 ans?
Ouais. Non, c'est pas une vie.
Enfin bref.
Mais je trouve ça intéressant, on va dire, pour le.
Oui, il y a des aux États-Unis, il y a toujours des cinglés.
Ouais.
Mais en plus, juste tout ce que vous me racontez là, vegan et tout, vous savez, c'est comme. Dans le truc de Lancelot là sur la télévision, le truc idiot là où il y a
Kaamelott.
Kaamelott, il y a le maître d'armes qui bouffe des graines.
Oui.
Vous savez, ça me fait toujours rigoler. Il dit, je bouffe pas des graines. Bouffer des graines toute sa vie sans se taper.
Oui, ça, je suis d'accord. Et puis c'est un environnement forcément très contrôlé. Lui, il y arrive parce que il est richissime depuis une quinzaine d'années, et donc il travaille pas en dehors de ça. Il fait pas grand chose. Donc forcément, il est toujours chez lui. Il a une grande villa, il a une piscine, etc. Donc il a un environnement qui est toujours très contrôlé. Il sait à quoi va ressembler la journée de demain à la minute près. C'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut se permettre.
Il aurait pu aller dans le monastère de Bénédicte. Hein.
Oui.
Il aurait fait ça très bien. Hein. Ça aurait coûté beaucoup moins cher. Hein.
C'est pas faux, peut-être.
Et puis, il aurait pu chanter des jolies chansons pendant la nuit.
Ouais. Mais alors, il a quand même des résultats observés d'un point de vue des marqueurs biologiques. Il a une vitesse de vieillissement qui est passée de 1,03 ans par an à 0,69. Donc, il vieillit de 8 mois par année civile. Son âge biologique global a été inversé de 5,1 ans après 2 ans de protocole sur la peau, il a eu une inversion de 9 ans de son âge biologique. Ça se voit d'ailleurs dans le documentaire, il a une peau au début qui est un peu rougeâtre, il est en léger surpoids, etc. Et puis après, alors il a un passage où il a une peau qui est presque verdâtre. Hein. C'est un peu bizarre.
Ah,
il fait un peu.
C'est les graines. C'est les graines.
Oui, mais je pense que c'est ça. Hein. C'est le manque de vitamine B12, à mon avis, qui fait ce genre de truc. C'est le manque de carnatine, etc. Ça blanchit la peau, ce qui donne une coloration presque verdâtre. Et alors il a lancé carrément un protocole pour d'autres gens aussi en février 2026, donc c'est tout récent, le protocole Immortals. Donc il a ouvert un programme ultra exclusif à 1 million de dollars par an avec seulement 3 places. Il s'agit du protocole exact qu'il suit, avec une équipe médicale dédiée, des thérapies expérimentales sur thérapie génique, cellules souches, etc. Suivi IA complet, plus de 1500 candidatures ont été reçues en une trentaine d'heures. Une version low cost est d'ailleurs gratuite et annoncée pour 2026-2027. Donc ça, c'est le genre de truc, je ne présume pas une seule seconde qu'il parviendra réellement à trouver l'immortalité grâce à son protocole d'ici 15 ans, mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir des types qui essayent de repousser les limites du corps humain et qui sont en quelque sorte leur autocobaye, quoi. C'est-à-dire qu'ils font des expériences sur eux-mêmes.
Si ça leur fait plaisir, hein, c'est...
Voilà, c'est ça, si ça leur fait plaisir.
Si ça leur fait plaisir, si c'est ça qui les amuse, mon Dieu.
Et alors après, il y a une autre notion qui m'intéresse, qui concerne davantage la médecine générale, c'est la notion de LEV pour Longevity Escape Velocity. Alors c'est aussi d'autres tarés de la Silicon Valley, mais qui peut-être vont parvenir à leur fin. Je pense pas d'ici demain matin, mais peut-être d'une façon ou d'une autre. C'est le Longevity Escape Velocity, le moment évidemment qui demeure hypothétique, où les progrès médicaux et scientifiques permettront d'ajouter plus d'une année d'espérance de vie par année de vie supplémentaire. Imaginez que tous les 3 mois, il y a une nouvelle découverte qui fasse augmenter votre espérance de vie de 3 mois et 5 jours. Bon, bah, à ce moment-là, la distance qui vous sépare de la mort reste inchangée, voire même décroît au fil du temps. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez cesser de vieillir, mais juste que vous n'allez pas mourir pendant ce temps-là. Et alors, le type qui a inventé ce vocable, il s'appelle Aubrey de Grey, qui est un biogérontologue, président de la LAV Foundation, cofondateur du Sense Research Foundation. Donc, il travaille dans tout ce domaine-là. Il veut vraiment faire en sorte que l'humain atteigne l'immortalité. Il a fondé ce terme en 2004. Alors, d'après ses estimations de l'époque, on aurait déjà dû atteindre ce moment, la LEV, ce qui révèle quand même qu'il est un peu farfelu et optimiste, mais ça me rappelle un peu des personnalités comme Elon Musk qui disait il y a 10 ans que dans 10 ans on irait sur Mars. Bon, aujourd'hui, on peut encore affirmer qu'on n'ira pas sur Mars avant bien des décennies.
J'avais des calculs d'un astronome qui m'expliquait ça, j'ai rien compris. Je lis toujours les trucs d'astronomie parce que ça me passionne, mais je comprends rien parce que c'est très compliqué. Il dit aller sur Mars, ça c'est facile pour des raisons mais en revenir, c'est quasiment impossible.
Ouais.
Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est très difficile. Bref, donc.
Déjà, on a envoyé un robot il y a une bonne dizaine d'années, c'est déjà pas mal.
Ouais.
Franchement, c'est.
Il nous fait des photos?
Ouais, il nous fait des photos. Peut-être que plus tard, on arrivera à envoyer des robots qui carrément nous feront, je sais pas, des stations de lancement sur place, j'en sais rien
En
si
tout cas,
c'est.
Ils nous
renvoient
des
possible.
Maisons qui feront de l'oxygène, j'en sais rien.
Voilà. Mais je trouve ça intéressant d'avoir des types comme ça, même s'ils sont très farfelus. Et il estime aujourd'hui à 50% nos chances d'atteindre la LEV dans les années 2035-2040. Il y a un type directeur de l'ingénierie chez Google aussi, qui s'appelle Ray Kurzweil, qui prend plus de 100 suppléments par jour depuis des décennies. Il prédit que les nanobots et l'intelligence artificielle permettront l'immortalité d'ici 2045.
Trop tard.
Oui, peut-être. Mais il y a d'autres
Enfin,
types.
je reste en 2 ans.
Mais il y a d'autres types qui sont beaucoup plus optimistes, hein, qui pensent que si vous êtes encore en vie en 2030, vous allez pouvoir repousser votre espérance de vie de je ne sais combien de
Mais
temps.
je trouve ça un peu
Enfin bref.
triste. Je trouve ça un peu triste parce que
Ouais.
ce qu'il y a je dis pas du tout. J'y crois, mais il y a une espérance derrière la mort, c'est qu'on va retrouver tous les gens qu'on a aimés. Mais si on devient immortel, on va jamais les retrouver.
Oui.
Oui, il y a des agents que j'aimerais revoir, moi.
Oui.
Le reste de ma vie, c'est de passer sur la route entre Toulouse et Saint-Gaudens, de monter dans les montagnes, dans la maison de mes parents, et puis d'aller reprendre le thé avec mes parents et ma vieille grand-mère. C'était les meilleurs moments de ma vie, ça. Donc,
ouais.
L'idée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je trouve que l'idée que je vais jamais les revoir, ça me broute. J'ai pas envie de vivre jusqu'à la fin des temps sans les revoir, quoi. Ça me fait brère. Et donc il y a aussi y a quelque chose de naturellement reposant dans l'idée qu'on va mourir.
Oui.
On s'en fout de ce que fait Wall Street à ce moment-là.
Oui, mais je trouve que ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure sur l'euthanasie, c'est-à-dire qu'en fait on refuse finalement les limites naturelles. On dit c'est moi qui vais décider quand je vais mourir et la mort ne sera plus quelque chose de naturel, mais ce sera quelque chose d'administré. Et effectivement. C'est vrai que à la fois je suis totalement pour le progrès technique et la possibilité de repousser tout un tas de limites. Maintenant, c'est vrai que l'idée que la mort demain sera administrée, je sais pas, c'est une idée qui est un peu repoussante d'une certaine manière.
Ou que parce que si vous acceptez cette idée qu'on va vivre maintenant, qu'on va repousser la mort, ben, à ce moment-là, si vous voulez, on comprend pourquoi ils font 0 enfant. Parce que si vous êtes là tout le temps, vous voulez pas que les enfants vous bouffent le pain que vous allez. Ben, ce que je veux dire, c'est que donc, oui, en effet, s'il y a 8 milliards de gens qui meurent plus sur la Terre, ben, on n'a plus besoin de faire des enfants. Donc, il
ouais.
y a toute une série d'imbécilité là-dedans. Il y a une. C'est idiot ce que je veux dire, mais une espèce de douceur à passer par les âges de la vie. Vous savez, vous avez 20 ans, vous faites que des conneries, et puis 30 ans, et puis vous. Donc, puis il y a le moment où. Bon. Et je trouve que. Vivre, c'est apprendre ça, quoi. C'est apprendre cette espèce de passage. Si on cesse de penser que la vie est un passage, ben. Qu'est-ce qu'on fout?
Ouais.
Moi, ça me non,
mais
déprime.
c'est une idée générale de ne pas subir le temps. C'est-à-dire que le temps, c'est un peu quelque chose face auquel on est à peu près tous égaux. Une journée, c'est une journée pour tout le monde, que ce soit pour les riches ou pour les pauvres. Une décennie, c'est une décennie pour tout le monde. Alors, il y en a qui partent avant d'autres, qui ne peuvent pas vraiment le décider, mais globalement, c'est une réalité. Et il y a cette idée de dire, bah, j'ai 50 ans, mais dans ma tête, j'en ai encore 22, et puis je ne vais jamais mourir, je vais profiter encore de la vie et
En
de
bouffant des
certains...
graines?
Ouais, de certains
En
plaisirs
bouffant des graines
frivoles.
et le... Moi, s'il y en avait un qui faisait ça avec du confit de canard, ça irait, mais
Ouais.
avec les graines, ça m'intéresse pas des masses. Hein.
Ouais. Alors, on a aussi le phénomène
Un peu de Châteauneuf-du-Pape aussi. Vous avez... Le confit de canard, Châteauneuf-du-Pape, ça va bien.
Oui, c'est vrai que c'est pas mal, ça.
À mon avis, on vit pas très longtemps, mais on est très content.
Oui, ça vaut certainement quelques jours d'espérance de vie, je pense. Et on a aussi le phénomène des retraités qui vendent leur maison pour partir
En croisière, oui.
en croisière éternelle. Bon, là aussi, je comprends tout à fait, hein,
Oui, ils
mais
se mettent sur des bateaux,
bon.
oui, j'ai vu ça.
Mais bon.
Ils se mettent sur des bateaux, donc ils vivent pas de relation avec leurs enfants, leurs petits-enfants.
Ouais. Bah, peut-être qu'ils n'en ont pas, d'ailleurs.
Peut-être qu'ils n'en ont pas, mais voilà, c'est ça.
C'est peut-être ça.
Non, mais tout ça, c'est des histoires de galopins. Hein. Moi, j'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui croient sérieusement à ces bêtises. Ça me. Alors, ce qui se passe aussi, dont vous allez parler, j'imagine, c'est que, en étant plus sérieux, c'est que l'intelligence artificielle maintenant réussira à faire des médicaments qui sont adaptés à l'ADN de chacun.
Tout à
C'est
fait.
ce sur quoi travaille ma petite fille là, en Angleterre, là. Ça, je trouve ça intéressant
Tout
parce
à
qu'en
fait.
effet, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes problèmes tous, quoi. Donc, il
Ouais,
faut faire des
complètement.
médicaments sur mesure, quoi.
Tout à fait. Donc ça, c'est permis notamment par l'IA de DeepMind, c'est-à-dire Google AlphaFold. Donc entre 2020 et 2025, cette IA a intégré plus de 1300, pardon, c'est l'IA de manière générale qui a intégré plus de 1300 dispositifs médicaux autorisés par la FDA aux États-Unis, donc plus de 1000 dans le domaine de la radiologie, donc 77% du total. Donc ça devient déjà assez énorme. Ces outils reposent majoritairement sur l'apprentissage profond, ont permis d'améliorer la vitesse, la précision des diagnostics dans l'imagerie médicale, la cardiologie, la neurologie. Et donc cette IA AlphaFold, développée par Google, a prédit la structure de près de 200 millions de protéines en quelques secondes, ce qui a valu donc le prix Nobel de chimie de 2024 au fondateur de cette IA. Et cette avancée a accéléré la découverte de médicaments, la compréhension de maladies, les vaccins à ARN messager, initialement développés contre le Covid-19, ont été adaptés au cancer avec des résultats cliniques assez prometteurs déjà en phase 2 et 3. La thérapie génique CRISPR-Cas9 a obtenu ses premières approbations réglementaires pour des maladies génétiques comme la drépanocytose et la bêta-thalassémie. Les accessoires connectés combinés à l'IA aussi ont commencé à permettre une surveillance continue et prédictive de certains paramètres physiologiques. Alors pourquoi AlphaFold est absolument une révolution en fait pour la médecine? C'est déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une protéine et pourquoi sa forme est importante. Faut imaginer que votre corps est en fait une espèce d'immense machine qui est remplie de machines minuscules. Ces machines, ce sont des petites protéines. Elles sont fabriquées à partir d'une simple recette, une chaîne d'acides aminés, comme un long collier de perles en quelque sorte. Mais c'est pas la liste des perles qui compte le plus. Ça va être la forme en 3D que cette chaîne va prendre une fois repliée. Et une protéine qui se plie correctement, ça fonctionne comme une clé qui s'emboîte parfaitement dans une serrure. Mais si elle se plie mal, à cause d'une mutation génétique, par exemple, elle peut causer des maladies comme le cancer, Alzheimer ou la mucoviscidose. Comprendre cette forme en 3D, donc, c'est absolument fondamental pour inventer des médicaments, des vaccins ou des traitements ciblés. Et donc, avant AlphaFold, ça, c'était à peu près mission impossible. Donc, jusqu'en 2020, déterminer la forme exacte d'une seule protéine, c'était un travail de titan. Les scientifiques utilisaient des techniques de laboratoire très lourdes comme la cristallographie au rayon X, la cryomicroscopie électronique. Fallait souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, des millions d'euros, beaucoup de chance pour obtenir une seule structure de protéines. Donc on ne connaissait la forme que de moins de 0,1% des protéines existantes sur Terre. C'était comme essayer de fabriquer un médicament sans savoir à quoi ressemble vraiment la cible, comme envahir l'Iran sans savoir
pourquoi on est
comment
là?
l'Iran est organisé.
Et savoir pourquoi on est là?
Exactement. Et la découverte de nouveaux traitements était donc extrêmement lente et très difficilement personnalisable. Et aujourd'hui, donc avec AlphaFold, c'est possible. Vous avez un système donc d'intelligence artificielle révolutionnaire. Il suffit de donner à l'IA la liste des acides aminés et en quelques secondes ou quelques minutes, elle prédit la forme 3D complète de la protéine avec une précision presque égale à celle des méthodes de laboratoire. Et donc en 2024, les types de AlphaFold ont sorti AlphaFold 3, encore plus puissant, qui prédit non seulement les protéines seules, mais aussi comment elles s'associent avec l'ADN, l'ARN ou même des molécules et des médicaments. Donc c'est juste un truc de complètement fou. Et donc la base de données publique aujourd'hui de AlphaFold contient plus de 200 millions de structures protéiques, donc à peu près toutes les protéines connues chez l'humain et dans de nombreuses espèces, plus 1,7 million de complexes protéiques, c'est-à-dire des protéines qui travaillent ensemble. Et ça, c'est gratuit et accessible pour tous les chercheurs du monde. Et donc derrière, ça va permettre de découvrir tout un tas de médicaments, comprendre des maladies, faire des nouveaux antibiotiques face aux bactéries résistantes. Et faire aussi, ça va être à mon avis le point le plus important, des vaccins personnalisés, puisqu'on identifie plus vite des morceaux de protéines cancéreuses à cibler pour réveiller le système immunitaire. C'est-à-dire qu'en fait, on traficote votre système immunitaire qui, en temps normal, reconnaît certaines maladies et qui vont les cibler avec leur système de mémoire. C'est le système CRISPR qui a plus de 2 milliards d'années. Mais cette fois-ci, on va pouvoir le traficoter pour, en quelque sorte, faire comprendre à vos lymphocytes T qu'il y a une maladie qu'elle n'avait pas reconnue, c'est le cas de beaucoup de cancers donc, et pour pouvoir le cibler. On va peut-être faire rentrer les chiens parce que...
Non, je crois que c'est sa maîtresse qui a dû arriver.
Ah d'accord. Et là, je voudrais parler d'une histoire absolument dingue. C'est d'ailleurs l'histoire qui m'a convaincu de faire ce thème, ce sujet. Il y a un type qui s'appelle Paul Cunningham, qui est un entrepreneur australien, qui n'est pas un vétérinaire, qui n'est pas non plus un biologiste de formation. C'est un entrepreneur en IA, il dirige une boîte de conseil en intelligence artificielle, et sa chienne, Rosie, a eu un cancer des mastocytes, diagnostiqué très tard, avec 11 mois de retard. Les vétérinaires lui ont donné un pronostic fatal, et au lieu d'abandonner, il a tout misé sur l'intelligence artificielle, il venait de ce milieu, et la science de pointe pour créer un vaccin à ARN messager personnalisé contre le cancer de sa chienne. Alors voici comment il a fait. Tout d'abord, il a fait bon, il a fait un diagnostic. Donc après quelques visites inutiles chez le véto, une biopsie, le cancer a été confirmé. Il y a eu d'abord des chirurgies pour enlever certaines masses, mais il en restait une de tumeur qui était énorme avec un risque d'amputation. Et donc le traitement des, enfin le coût des traitements classiques, chimio plus immunothérapie, c'était hors de prix et assez peu efficace. En plus de ça permet de gagner quelques mois, mais enfin pas de guérir le chien. Et ensuite, il a fait une phase de recherche avec l'IA, donc en 2024-2025. Il a utilisé ChatGPT, notamment les modèles O1 et 4O, Gemini et Grok, comme des assistants de recherche 24 et 7 jours sur 7. Il leur a demandé plusieurs choses, comment fonctionne le cancer au niveau moléculaire, qu'est-ce qu'un néo-antigène, comment concevoir un vaccin à ARN messager. Et donc, il voulait un traitement 100% personnalisé pour son chien. Ensuite, là, ça devient intéressant. Il fait faire un séquençage de tout l'ADN de son chien, donc ADN de sang normal. Ce qui ne
faisait maintenant qu'au revoir au prix des mois, mais maintenant, ça se fait en 5 minutes.
Exactement, et ça coûte beaucoup moins qu'avant. Mmh. C'est un truc complètement dingue. Et il a fait le séquençage aussi de tout l'ADN de la tumeur, donc séquençage complet aussi, pas juste un test génétique pour savoir quels sont vos ancêtres irlandais. Il a lui-même transporté les échantillons congelés au Garvan Institute, puis à l'université en Australie. Ensuite, il a eu 300 gigas de données brutes. Grâce à l'IA, il a appris à utiliser les outils de bioinformatique professionnelle pour analyser ces données. Il a découvert une mutation clé dans un gène du cancer. Et ensuite, il a séquencé l'ARN de la tumeur pour voir quel gène était réellement exprimé. L'IA a identifié ces gènes. Il a demandé encore une fois à d'autres modèles d'IA de concevoir la séquence exacte d'un vaccin à ARN messager pour cibler ces gènes-là. Et ensuite, l'IA lui a généré le truc, c'est-à-dire que lui a généré la séquence ADN, littéralement, qu'il fallait faire.
Le médicament qu'il fallait.
Ensuite, il est allé voir un laboratoire avec la séquence ADN en lui disant, bah voilà, j'ai la recette en quelque sorte pour un vaccin pour mon chien, est-ce que vous pouvez le faire? Alors il a fallu des heures et des heures de paperasse, il explique que c'est à peu près 120 heures de paperasse administrative pour l'approbation éthique. L'IA d'ailleurs l'a encore une fois aidé à rédiger tout ça et à naviguer dans la réglementation, parce que vous imaginez bien que...
C'est la partie la plus difficile.
C'est sans doute la partie la plus dure, effectivement. En plus de ça, vous imaginez bien que la paperasse, en plus de ça, dans le domaine médical, c'est le domaine d'à peu près personne. Et donc ensuite, le laboratoire a fabriqué le vaccin sous la direction d'un grand professeur. Il a trouvé un essai clinique déjà approuvé à l'université du Queensland. Et ensuite, il a fait faire donc le traitement, donc le vaccin ne suffisait pas, l'IA a aidé aussi à concevoir le protocole global, et ensuite les résultats, et ben ça a marché. Donc après quelques semaines, il y a eu un premier gonflement de la tumeur, ce qui est normal, c'est une pseudo-progression, donc en fait ça veut dire que les cellules immunitaires commencent à attaquer la tumeur, ensuite il y a une régression visible, aujourd'hui son chien va beaucoup mieux, et donc il a réussi à faire ça de A à Z. Bon, évidemment il y a le laboratoire avec des vrais professionnels de la médecine qui intervient entre temps, mais sur le principe, il a eu la recette, quoi. C'est quand même un truc complètement fou.
Ben, il faudrait donner ça au gars qui bouffe des cacahuètes, là, le gars qui veut vivre jusqu'à 120 ans, il va durer toujours, pour lui faire un protocole qui soit sérieux, qui soit fondé sur l'IA, pas sur...
Bon, après, il a pas de maladie grave, il a pas de cancer.
Il y a le chien qui pousse des cris, je crois. Ouais.
Il
est très malheureux, il va falloir absolument
qu'on arrête parce que
sans ça, il va nous faire une dépression nerveuse, celui-là. Et puis, si ce chien est malade, ma fille me le pardonnera pas. Alors. Donc, écoutez, tout ça, c'est passionnant, mais ça prouve qu'il est en train de se passer une espèce de révolution. C'est pas tellement une révolution de l'intelligence, c'est une révolution de l'accès à des éléments qui autrefois étaient très compliqués un par un, parce que là on vous donne toutes les informations dont vous avez besoin instantanément, ce qui fait que ça vous fait monter d'un étage. Ça vous empêche pas de penser, mais ça vous force à agir plus vite. On commence à voir ça dans la finance, etc. aussi. Donc on sort des détails pour revenir à la vision globale.
Oui, tout à fait. C'est des domaines où finalement le traitement de l'information, qui était la principale plus-value de l'esprit humain, n'a plus aucun intérêt.
De certains esprits humains.
Mais disons que voilà, lire des séquences ADN, bon, peut-être que techniquement un humain était capable de le faire, mais déjà encore fallait-il séquencer le truc.
Mais ça prenait forcément un
temps complètement fou, et puis on n'avait pas le temps de le faire pour tout le monde, et encore moins pour un chien, quoi.
Pour un chien, et puis surtout le chien, on n'avait pas le temps on trouvait les résultats, il serait mort depuis 15 ans. Quoi.
C'est ça, exactement.
Parce que ça vit pas vieux, le chien. Ben voilà, donc si vous voulez, tout ça c'est intéressant. Alors nous, vous savez qu'on travaille sur l'intelligence artificielle pour essayer de vous aider aussi dans tout ce qu'on fait. Et le résultat auquel on arrive, c'est qu'on va essayer de faire de l'intelligence artificielle, mais qui travaillera dans une espèce de monde clos, pas un monde ouvert. Parce que sinon, tout le monde va partir dans toutes les directions à la fois. En quelque sorte, on va définir ce qui nous intéresse, puis on lâchera l'IA dans ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire le traitement de l'ADN. Lui, il n'est pas allé regarder l'ADN des baleines, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est la première des choses, c'est quand même de décider où vous allez faire travailler la bête.
Ouais, tout à fait. Donc c'est en gros, c'est sur l'université de l'épargne, on va avoir une IA Charles Gave.
Voilà. Qui travaille avec un concept qu'on a mis au point depuis 50 ans. Voilà. Et voilà, elle va travailler là-dessus.
Tout à fait.
Et puis ceux qui pensent pas comme nous, eh ben ils peuvent aller circuler en neuf.
Voilà, mais c'est un sous-domaine de l'IA, c'est l'IA, on va dire entre guillemets maison, c'est les LLM que l'on pilote, donc on lui donne sa base de données, on l'entraîne, on lui fait faire plein de trucs, et on l'envoie pas se balader sur Internet pour trouver tout et n'importe quoi.
Elle attraperait des mauvaises idées.
Voilà,
elle deviendrait keynésienne en 5 minutes.
Et... c'est ça.
Après ça, il faudrait partir à zéro.
Oui, parce qu'elle va lire le dernier manuel de Paul Krugman, et elle va se dire, mais c'est génial.
C'est génial, c'est comme ça que ça marche.
Exactement.
Mais non, c'est pas du tout comme ça que ça marche.
Donc voilà.
Merci infiniment. En tout cas, c'est important de réfléchir à ce qui se passe dans le domaine de la pensée. Parce qu'encore une fois, l'homme est un roseau pensant. Hein. Et donc, la pensée, c'est pas l'accumulation de données. L'accumulation de données favorise la pensée, vous permet de filtrer votre pensée. Mais ce qui crée l'innovation, c'est pas l'accumulation des données qui ont toujours été là, c'est une pensée différente. C'est Einstein qui, d'un seul coup, remplace toute la physique de Newton, pouf.
Ouais.
Donc, si vous voulez, cette espèce de... La pensée restera dominante, les données, ça deviendra plus facile.
Oui, c'est clair. C'est ça. C'est, avant, il y avait beaucoup d'humains qui étaient centrés sur le traitement de données. Mais
sur
forcément,
la recherche même des données.
Voilà, et forcément, face à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça n'a plus
mais
vraiment...
Quand j'ai commencé dans mon métier il y a 50 ans, j'allais chercher les données à la main dans les rapports des banques centrales. Je faisais des calculs avec une machine à calculer, et puis je trouvais des corrélations qui étaient au-dessus de 1, et je me disais, putain, j'ai encore fait une erreur de calcul. Non, mais c'est pas des blagues, hein,
ouais, ouais, ouais,
donc, il repart à zéro.
Ouais, à laquelle on fait.
Bon, on va aller voir le chien.
On va aller voir le chien. Bon, je vous remercie évidemment pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés.